rêver plus loin. Un podcast en deux épisodes, fabriqué avec une collecte de rêves en pleine pandémie. Premier épisode, trouble dans nos songes.
Tout commence le 16 mars 2020, le premier des jours du grand confinement. Il y a des airs de début de colo. La veille, je rêve qu'un ami arrive pour se confiner avec nous. Je ne comprends pas, il a seulement un mini sac à dos. Je lui demande comment il va faire avec seulement quelques affaires alors qu'on est là pour tellement longtemps. Des amis posent leurs bagages dans l'entrée de notre grande maison. Ils ont vidé les frigos de leurs appartements. Notre réserve est remplie comme jamais. On est 15 et on est prêt. On est là avec nos blagues, nos rires jaunes sur la durée du confinement. Il y a l'excitation de l'inconnu et l'angoisse de l'inconnu. On regarde ensemble le discours de Macron. Le soir même, la nuit me sépare de mes amis et de mes amours. Fin de la colo. Ce soir-là, je rêve qu'on est tout ensemble, celles et ceux qui sont maintenant dans la maison. On est tous un peu plus vieux, c'est après la période du grand confinement. À un moment, il y a une sorte de fête chez nous. Plein de gens arrivent et moi, ça me stresse pas mal, j'ai plus l'habitude de socialiser avec des gens comme ça. Alors je descends dans mon atelier en dessous du salon. Mais il y a tout le temps des gens qui descendent me voir un à un. Et à chaque fois, il faut qu'on ait des conversations très intenses, comme pour faire un bilan de nos relations. Et puis, je n'entends plus vraiment de bruit de la fête au-dessus. Alors je monte et là, tout le monde est parti. Il n'y a plus que les habitantes de la maison. Et je leur dis, mais ils sont partis où ? Tous, sans me dire au revoir. Je suis choquée. Il y a des gens à qui je tiens beaucoup. Mes amis, un amoureux. Je suis triste, c'est abusé. Et les autres me disent, mais tu sais, c'est comme ça maintenant. Depuis le confinement, on n'est plus vraiment amis avec les autres. Je me réveille le cœur brisé. Pendant que la distance avec celles et ceux que j'aime me hante, je erre sur internet et trouve ce rêve, anonyme, daté du 16 mars.
Les gens autour de moi étaient des gens du passé. Beaucoup de membres de ma famille, parfois disparus. Des ex-amis, des ex tout court. Et moi, je m'arrachais le cœur, qui avait vraiment la forme d'un cœur. Et je voulais leur donner. Mais eux, avec masque et gants, faisaient les gestes barrières, me repoussaient. Puis j'ai commencé à m'enflammer par le bas. Puis je suis tombée en arrière, en flamme, triste.
Étrangement, ce rêve m'apaise. Je ne suis pas seule à me perdre dans mes nuits. Au début du confinement, je me noie dans mes cauchemars. Alors je raconte chaque matin à la table du petit déjeuner. Puis les rêves des autres arrivent. Eux aussi, ils se souviennent. Des bribes reviennent. Je prends un micro et je collecte tout. D'abord, ceux autour de moi, des personnes avec qui j'habite. Puis j'envoie un mail à mes amis, à mes camarades. L'appel au rêve voyage. Des prénoms que je ne connais pas avec des récits de nuits d'endroits confinés arrivent dans ma boîte mail. Les rêves des autres deviennent alors mon lien avec l'extérieur.
Hey, coucou! Super idée cette collecte. Voici le mien. Je suis confrontée à mon taf, comme tous les docteurs, au manque de masques. Et j'ai rêvé cette nuit qu'en ouvrant un tiroir, j'en trouvais un énorme stock que j'avais oublié. J'aurais découvert des liasses de billets, ça m'aurait fait le même effet. À bientôt pour les prochains, Mumu.
Ces premières nuits de mars, les anxiétés naviguent entre perte du lien et peur des autres. Un plongeon collectif dans l'inconnu qui apparaît dans les songes.
Dans mon rêve, un ami m'a laissé un message sur mon répondeur. Bon, bah voilà, j'ai trouvé la solution pour arrêter tout ce bordel, ce confinement, la répression. J'ai trouvé. Je vais me suicider et tout ira mieux. Ça réglera le problème. Tout rentrera dans l'ordre. Je m'en veux à mort de ne pas avoir décroché, de ne pas être allé le voir, de ne rien avoir pu faire avant. On est trop loin maintenant pour voir les gens.
J'étais dans une sorte de file d'attente, avec des gens qui s'agglutinaient autour de moi, et je me disais qu'il fallait pas. Et j'étais gênée d'être la seule à m'en rendre compte.
Au début, beaucoup font des rêves où ils alertent du danger, préviennent de la situation, essayent de faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il se passe à leurs proches ou à des passants dans des rues de centre-ville bondées.
Je suis dans une galerie marchande. Tout le monde se rapproche de plus en plus et je visualise que le mètre nécessaire entre les gens n'est pas du tout respecté et que ça ne gêne personne. Et j'ai envie de crier, mais je n'ose pas.
Il faut faire rentrer à marche forcée le virus dans nos têtes de confinés. On doit se convaincre et dans nos sommeils, c'est les autres qu'on essaye d'alerter en vain. Souvent, les songes résistent à la raison. Si beaucoup acceptent la nécessité de l'enfermement, les inconsciences débattent.
Je suis dans la Drôme avec une amie et d'autres personnes. Ma pote, elle est complètement à fond, elle est trop contente d'organiser une méga teuf. Moi, je lui dis qu'elle plane, que tous les rassemblements sont interdits. Elle rigole, elle me dit que je dis n'importe quoi. Là, en fait, je réalise que personne n'est trop au courant dans le coin et qu'en fait, ils planent tous. Du coup, je lui dis que même le printemps de Bourges est annulé, pour te dire. Et là, elle hallucine.
En fait, je suis des amis que je vois à peu près une fois par an. Et en temps normal, ces gars-là, c'est des gens qui jouent aux dames. Mais là, j'arrive chez eux et là, ils jouent aux dames encore et encore. Et je leur dis, mais vous jouez aux dames comme d'habitude, alors que c'est le confinement. Enfin, je comprends pas.
Nos journées hallucinantes ne tardent pas à se prolonger dans nos nuits.
J'étais chez moi et je me rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec mon corps. Je fais un test de grossesse, il est positif. C'était un peu le cataclysme dans ma tête. On refait des tests et là on me dit « Vous êtes enceinte de 6 mois ». Là c'est la panique et le corps médical me dit « Ça peut arriver comme ça, parfois, de toute façon c'est comme ça. De toute façon le coronavirus rend les avortements impossibles. Alors je dois accepter. Je devrais être au courant. Moi je suis en proie au désespoir complet, je sais pas comment je vais m'en sortir. » Je crois que j'ai fait ce rêve parce qu'à l'époque, j'avais très peur. Au planning, on avait plein d'alertes Covid. La directrice s'était battue pour laisser le centre ouvert et j'angoissais pour les gens qui allaient avoir des bébés pas désirés du Covid. Je me disais que beaucoup allaient se retrouver dans un immense désespoir parce qu'il n'y avait plus d'accès correct aux soins et aux soignants. La médecine se focalisait sur un truc et tout le reste passait à la trappe.
En consignant des songes, j'ai quelque part dans mon esprit Charlotte Bérard, juive allemande et opposante communiste qui vivait à Berlin. De 1933 à 1938, en pleine montée du nazisme, elle avait effectué une collecte de près de 300 rêves, compilés ensuite dans un magnifique « Rêver sous le Troisième Reich ». Pensé comme un acte de résistance au régime hitlérien, ce recueil montre avec la force du sensible le retentissement émotionnel de la situation politique dans nos inconscients. Charlotte Bérard, sans prétention scientifique, y voit l'entreprise de colonisation de l'intime, effectuée par le régime hitlérien. Au milieu des haut-parleurs hurlant la propagande du régime aux fenêtres, les uns rêvent qu'ils sont surveillés à chaque instant du jour, quand d'autres voient s'effondrer les murs protecteurs de leur chambre et imaginent des microphones dissimulés tout autour d'eux. À propos de ce livre, le philosophe Koselleck dit « La terreur n'est pas seulement rêver. Les rêves eux-mêmes sont une composante de la terreur. » Alors, de quoi va-t-on rêver pendant cette pandémie? En mars, affirmer des choses me semble impossible. Beaucoup s'affairent à écrire des tribunes et autres analyses, mais le monde marche dans l'inconnu et le paradigme semble changer tous les 8 jours. Alors récolter des rêves, ça pourrait être un moyen de dire quelque chose. Ils ne mentiront pas, ne se tromperont pas. Mais seront une composante de cette période traversée.
Stéphane, par mail, avril 2020. Je rêve que je téléphone à mon premier amour. Je lui dis, maintenant qu'on est seul, il faut que l'on s'aime car on ne peut aimer qu'une seule personne et c'est toi. Il comprend pas. Pourtant, il y a le Covid. Il devrait savoir qu'il faut choisir, qu'on a le droit de fréquenter qu'une seule personne et qu'il faut être en couple. J'ai peur parce qu'il ne mesure pas ce qui est en train de se passer.
Alors voilà. On y est. On s'installe dans le confinement et sa nouvelle langue. Pangolin, zoonose, cluster, distanciation sociale, gestes barrières.
continuité pédagogique, nation apprenante. Nous sommes en guerre présentielle, distancielle. Nos imaginaires ramassent.
Mars 2020. Je suis une grenobloise de 25 ans, actuellement confinée. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais à Wuhan, dans les terrains délabrés d'un métro. Tout le monde avait fui, et il ne restait que les derniers retardataires, dont moi, qui cherchions à nous confiner. Le sol était jonché d'urine, de vomi et de crachats. Le tout était évidemment contaminé. Dans ce rêve, je portais de petits escarpins à talons aiguilles, un pantalon de tailleur et un chemisier blanc. J'essayais de courir pour attraper un transport et m'abriter. En courant, j'ai glissé avec mes petites chaussures, que je ne porte pas dans la vraie vie et n'en possède même pas, et suis tombée dans une flaque de vomi. J'en avais sur les mains et le chemisier. Je courais, plus doucement avec prudence, pour aller me laver les mains dans les toilettes publiques et enlever le chemisier contaminé. Dans les toilettes, il était difficile d'activer l'eau, mais je réussissais tout de même à me laver les mains. On a pu trouver un métro avec les dernières personnes, mais nous étions nombreux et très proches dans le transport. La tension était palpable. Tout le monde se repliait sur soi, évitant tout contact avec les autres malgré la proximité. Nous avions si peur.
Pour affronter la situation, chacun et chacune cherche sa place. Et même une fois installés, les doutes persistent.
J'habite chez Carole, ma sœur. Une maison écolo-moderne, neuve en bois, architecture angulaire, avec des grandes baies vitrées. Nous sommes en période de confinement. Il y a déjà de nombreuses personnes à l'intérieur de la maison. Un homme, la trentaine, relativement petit, cheveux noirs attachés sur l'arrière du sommet de la tête, peau basanée, me demande à travers la baie vitrée s'il peut entrer. Qui qu'il soit, mon raisonnement est le suivant. Nous ne laissons pas quelqu'un dans le besoin dehors. Et puis, un de plus, un de moins. Bien sûr qu'il peut entrer. Couverte de reproches par les autres qui me disent que j'aurais dû me méfier, je vais lui ouvrir.
Ambiance de fin du monde molle. Bien loin d'un imaginaire de fuite devant la catastrophe, d'émeutes romantiques ou de survivalisme en bunker. On est plutôt sur un thème jogging pantoufle et aucune insurrection ni invasion d'insectes géants en vue. Et pourtant, un matin, ma fille demande si ce qu'on est en train de vivre sera plus tard un tiré sur les frises chronologiques. Je lui dis oui, on dit oui. On dit ça s'appellera le grand confinement. Chez nous, il y a une préadolescente et son ennui flamboyant. Et un autre enfant de 8 ans, qui se plaît assez bien à rester tranquille et se noie dans la lecture. Mais rappelez-vous, à l'époque, en mars 2020, le Covid, c'est eux.
Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes.
C'est eux les super-contaminateurs, la bombe virale qui vit dans nos maisons. Leur vie bascule avant tout le monde, les écoles ferment 15 jours avant que l'on s'enferme.
C'était l'Assemblée nationale, et ça ressemblait un peu à Harry Potter. Et là, il y a Macron qui dit il n'y a plus école, il n'y a plus rien. Et là, du coup, il y a tous les gens avec des cravates qui sont trop contents.
Il y a un petit goût d'école buissonnière qui peine à cacher la situation délirante. Mon fils ne veut pas qu'on ouvre les fenêtres de la maison ou les portes de la voiture. Le virus est partout, dans l'air et dans nos têtes surtout. Et il rentre dans les rêves des enfants.
J'étais avec mon frère. On va voir des amis à l'autre bout de la ville. Et il n'y a personne. Mais là, sur la route, il y a un contrôle de police. Mais en fait, c'est un faux. C'est pas des vrais policiers. Et ils enlèvent les enfants. Car ils pensent que c'est la faute des enfants. S'il y a le coronavirus. Alors, on s'échappe, on court. Et là, on tombe sur des vrais policiers. Et on leur explique qu'il y a des gens qui enlèvent les enfants. Et ils s'en foutent complètement. Ils disent que c'est normal, que c'est de notre faute et qu'il faut pour de vrai faut vraiment nous enlever parce qu'en fait on est dangereux. Et du coup on court encore plus, on s'échappe. Et là, quand on arrive là où on devait aller, il n'y a plus personne. Tous les enfants, ils ont été enlevés.
Les attestations, elles sont où les attestations? Faut refaire des attestations. Qu'est-ce que je mets pour aller faire du maraîchage? Si je vais chercher des bières, c'est de la première nécessité? Comment on fait pour que les enfants voient leur père qui est à 400 km? Un numéro vert spécial, situation absurde, est ouvert, où des agentes tentent de voir dans quelle case les vies peuvent rentrer. La situation est kafkaïenne, les amendes pleuvent au bon vouloir des forces de l'ordre qui deviennent des juges de trottoir.
L'écharde au bout de mon doigt commence sérieusement à s'infecter. Je décide d'aller à l'hôpital, comme m'avait conseillé mon médecin, pour éviter un risque de septicémie. Je pars au CHU en voiture, mais là, je tombe sur un barrage de flics et de militaires, ils contrôlent toutes les voitures. Je me dis, merde, j'ai pas d'attestation, vite, faut que je trouve une excuse, ils vont jamais me croire pour l'écharde. Il reste que deux voitures devant moi pour trouver une excuse. Là, je leur dis que je suis enceinte, que je vais au CHU, mais que j'ai oublié mon attestation. Un flic se propose de m'accompagner. Merde. On se retrouve à pied, le flic est en civil, il a une gueule de baqueux.
Je repars en voiture en direction de Lyon. Et je tombe sur un barrage de flics, mais ambiance Deuxième Guerre mondiale. Je me dis, merde la Gestapo. Et j'ai peur.
La sanction tombe, ou pas. Nous sommes en guerre. La gendarmerie fait un communiqué pour demander aux Français d'arrêter de passer des coups de fil pour dénoncer leur voisin qui est en train de promener son chien pour la troisième fois aujourd'hui.
Le voisinage de Marjolaine n'a pas du tout apprécié son emménagement en plein confinement. Accueil glacial par un voisin.
Et il m'a dit « je préférais que vous soyez à la rue plutôt que vous nous mettiez à risque ».
Le voisin appelle la police. Des délations comme celle-ci augmentent et atteignent 70% des appels à la police. À Strasbourg ou en Nouvelle-Aquitaine, selon le syndicat Alternative Police, ces appels doivent cesser, demande Denis Jacob, le secrétaire général.
Vos papiers s'il vous plaît. Hashtag tous des balances, hashtag Pookie Party 2020. La dictature entre dans nos sommeils.
Dans mon rêve, je suis avec tous les gens à qui je suis confiné en ce moment. Et ça fait un paquet de gens, du coup. Et pour obtenir des laissez-passer de sortie, on doit participer à des sortes de concours de danse absurde. Et c'est pas une ambiance drôle du tout. C'est même genre hyper glauque. On fait... En fait, c'est des espèces de professionnels de la torture qui sont les sous-traitants des concours de danse pour chefs d'État. On dirait qu'on est dans la dictature de Pinochet. Les concours, ils ont lieu dans des endroits vraiment glauques, genre des sous-sols en béton éclairés avec des lampes qui grésillent. Et à un moment, on arrive dans un hangar pour faire le concours, et là, il y a un autre groupe de gens qui arrive juste après nous. Dedans, il y a mon ami de Suisse. Je le regarde et je lui montre que moi, j'ai réussi à avoir mon laissez-passer. Et je lui fais un signe pour lui demander « Et toi, alors, tu l'as eu ?» Mais en essayant qu'il lise sur mes lèvres, quoi, pour pas qu'on se fasse fusiller. Et là, il lève les bras pour me dire que non. Et je me réveille. Et c'est vraiment trop horrible.
L'inconscient collectif semble en état d'alerte. Je récolte des tas de rêves habités par des nazis, des flics, des dictateurs. Il paraîtrait que les rêves sont des sortes de répétitions générales, qui nous entraîneraient à affronter de possibles menaces à venir. Entre débrief de nos journées passées et anticipation de celles qui arrivent. De nombreuses études existent sur le sujet. Par exemple, l'une très connue a mis en évidence que les étudiants qui rêvaient qu'ils rataient leurs examens la veille de celui-ci avaient de meilleurs résultats. À croire qu'il faut prendre les rêves au sérieux. L'étude s'appuie sur la théorie de la simulation de la menace, formulé par un chercheur finlandais, Antti Revonsuo, qui stipule que le rêve, et particulièrement le cauchemar, serait un mécanisme cognitif de défense qui permettrait au cerveau de se préparer à affronter une menace en la simulant avant qu'elle ne surgisse réellement. Alors donc, nos rêves nous alertent sur les dangers à venir et ont un impact sur nos journées. Hélas, en grande surprise, ma collecte est envahie par un monde totalitaire.
Hier soir, j'ai eu un cauchemar. J'étais en France, mais en fait, c'était l'Angleterre. Et on était dans un grand champ, où il y avait plein de monde. C'était la fête, dans un grand parc. Soudain, il y avait des avions, mais des avions de guerre, qui ont commencé à tirer sur les champs. Des haut-parleurs hurlaient « Rentrez chez vous, rentrez chez vous !» Là, je me disais « Mais merde, c'est l'État français qui tire sur ses citoyens. » Aussi, sur celles qui ne sont pas ses citoyennes. C'était hyper hardcore. Alors, on a tous couru. Parce qu'en fait, ils tiraient sur nous pour pas que l'on se donne le coronavirus. Alors, ils tiraient des bombes. Après, on faisait une réunion dans une petite maison de campagne. On se disait, oui, il faudrait faire quelque chose autour de ça. On doit faire une déclaration, mais quoi ?
La police scientifique vient pour relever un tag dans le supermarché où je suis avec ma mère. Ils font des tas de trucs pour trouver qui c'est. Et là, je me souviens que c'est moi qui ai fait ça la veille. Le tag, il dit « Coronavirus ACAB ». Les policiers se rendent compte que c'est moi qui ai fait ça. Alors je cours dehors, et dehors, il y a des flics au large. Ils me coursent. Et c'est des grandes rues comme New York. Et malgré le confinement, il y a plein de monde. Il y a des centaines de policiers, et je ne sais pas s'ils sont là pour moi ou pour le coronavirus.
Alors, bien plus que la peur du coronavirus, c'est la peur de la police, d'un régime totalitaire que l'on me fait parvenir. Par-delà les décomptes quotidiens du nombre de morts, du nombre de cas, du nombre d'entrées en réa, les nuits semblent préparées au danger d'une répression qui n'aurait plus de limites. À un monde où l'on doit, pour sortir avoir ou s'inventer, une raison valable d'aller parcourir quelques centaines de mètres. Ce monde fait peur, le doute s'installe. Mais dans les rêves, on court, on s'échappe et on se rassemble.
J'étais dans le salon chez ma mère. Il n'y avait plus d'électricité, il faisait complètement noir et on était confinés avec des amis, et aussi avec João Pedro Rodrigues, un cinéaste portugais. Il n'avait plus de vêtements. Il les avait tous perdus d'un coup. Il était là, tout nu avec nous. Il finissait par dire qu'il allait quand même partir récupérer des vêtements. Et je lui disais, « Mais non, tu sais, on peut plus. C'est fini, on peut pas sortir. En plus, il n'y a plus d'électricité, alors tu verras rien, parce que c'est la nuit. » Mais il sortait quand même. Alors je décidais de le suivre. Tout d'un coup, il me montre un passage devant la maison, comme des tunnels qui rentrent dans les magasins. On ne pouvait plus sortir du tout, mais on pouvait passer sous le lit des rivières, comme dans le tunnel sous la Manche. Alors je l'accompagnais faire les magasins vides, en passant par des tunnels sous la terre.
Rêvez plus loin, la suite dans l'épisode 2.
Pendant que les champs J'attends que...